Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 48FM, il est 9h30, tout de suite les titres avec Chelsea.
Une journée riche en culture aujourd'hui. L'exposition Héritage débute aujourd'hui et célèbre la scène hip-hop liégeoise, fédératrice et diversifiée. La musique urbaine est devenue un espace d'expression incontournable, on en parle avec Marc Wendelski des Chirou en début de ce journal. L'intelligence artificielle s'immisce dans la campagne des Oscars, comment la machine a-t-elle été représentée dans le cinéma? Nous avons posé la question à Dick Tomasovic. Et enfin, environnement, code rouge et 150 agriculteurs s'unissent contre l'agro-industrie. Des actions de désobéissance civile démarrent aujourd'hui. Explication de la porte-parole du collectif dans ce journal. L'exposition Héritage, initiée par Nectar Culture en partenariat avec les Chirou, retrace l'histoire du rap liégeois des années 80 à aujourd'hui. À travers photos, clips, témoignages, elle met en lumière les légendes et les nouvelles voix de la cité ardente. Nous recevons aujourd'hui Marc Wendelski, animateur et régisseur de la cellule Art Plastique du Centre Culturel des Chirou. Bonjour Marc.
Bonjour.
Bonjour. Pourquoi était-il important pour les Chirou de consacrer une exposition au rap, une culture longtemps marginalisée dans les institutions artistiques ?
À l'origine, la démarche, l'initiative, elle vient pas de nous. C'est plus un hasard, et puis le hasard d'une rencontre, il se fait qu'il y a... Il y a 2 ans, je pense, Nectar Culture était venu me trouver parce que la SBL fêtait leurs 10 ans. Ils voulaient marquer un peu le coup et nous demandaient s'il y avait la possibilité de monter une exposition des archives, de tout ce qu'ils avaient pu faire en termes d'ateliers avec les jeunes, avec les stagiaires, etc. Et aussi par rapport aux événements qu'ils organisaient. Et on était un petit peu serrés, nous, au niveau du planning, mais... L'initiative nous plaisait déjà bien et on a réussi à caser finalement une petite expo à ce moment-là qu'on a montée un petit peu à l'arrache, mais qui s'est bien passée, qui a rencontré un beau succès. Et puis c'était surtout une très très belle rencontre avec Nectar Culture, on aimait beaucoup leur démarche, etc. Donc tout ça s'est bien passé et donc il y a quelques mois, Jerry et Deo sont venus me retrouver en disant « Est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose ensemble ?» Et moi, j'étais plutôt partant pour l'idée, avec évidemment, je leur dis, bon, on ne va pas faire les 11 ans, les 11 ans ou les 12 ans de Nectar, il faudrait brasser un petit peu plus large. Et donc, l'idée est née de faire peut-être quelque chose sur la culture rap à Liège, de manière voilà, plus large, plus historique, en parlant de tout ce qui s'est fait depuis les origines jusque maintenant. Et alors du coup ça s'est mêlé avec un autre projet que moi j'avais dans mes cartons depuis un moment que j'avais imaginé pour une expo autour des musiques électroniques et dont j'avais déjà parlé avec un autre partenaire avec qui j'avais déjà collaboré qui était le Hackerspace qui était de créer des outils de création musicale accessibles un peu à tout le monde, des outils très, vraiment simplifiés qui permettaient dans un espace d'exposition d'aborder de manière plus directe, plus physique le rapport à la création musicale. Et donc on a mis tout ça dans un panier, on s'est lancé dans l'aventure, quoi.
D'accord. Et à quoi peut-on s'attendre concrètement dans cette exposition ?
Alors l'exposition, elle comporte... un grand nombre de photographies. Donc c'était un gros travail de recherche via les réseaux sociaux des artistes principalement, quels photographes, quels vidéastes avec lesquels ils avaient travaillé. On a essayé de recontacter un maximum de personnes pour obtenir du matériel. Donc on va avoir quand même un grand nombre de photographies qui ont été produites spécifiquement pour l'occasion, parce que c'est beaucoup d'images qui d'habitude sont exclusivement dédié au réseau ou à la promotion sur Internet, aux affiches, aux flyers, etc. Donc ici, on a vraiment refait tout un travail de production autour de ce matériel-là. Il y a aussi une sélection de clips qui a été faite. Donc il y a 2 espaces de projection avec des clips issus des premières générations, donc des années 90 aux années 2010, plus ou moins, et un autre espace avec des générations plus jeunes d'auteurs. Il y a également pas mal d'archives qui nous ont été amenées par les plus anciens, parce qu'on s'est rendu compte aussi que la dématérialisation aussi des choses, c'est une réalité. Et donc on a reçu des fichiers des jeunes générations et du matériel physique de la part de DJ Sonar, de Charbon, voilà, vraiment des pionniers du rap ici à Liège, qui eux nous ont amené des vinyles, des fanzines, des flyers, des affiches, toute une série de matériel qui elle, aurait aussi présentés parfois pour la première fois dans l'exposition. Et alors au centre de l'exposition, il y a fait ces fameux dispositifs sur lesquels on a travaillé avec Loïc Cailleux du Liège Hackerspace, qui sont un séquenceur. Séquenceur, c'est ça permet de créer des boucles de sons sur lesquelles tout un chacun peut venir activer des boutons, choisir des sons avec des petits potards, lancer des boucles, et pourquoi pas, il y a un micro à disposition, s'il y en a qui veulent rapper, allez-y. Ça, c'est un des modules qui nous a pris beaucoup de temps à concevoir, quand même, en termes de programmation et puis de manutention. Et l'autre module qui est proposé, c'est un drum pad, qui est une version un peu détournée de la Akai MPC, qui est une machine qui a un peu révolutionné la production rap aussi, qui est constituée de 16 pads qu'on peut activer avec les mains. Et nous, on a décidé de remplacer les pads en caoutchouc habituellement visibles sur la MPC par des bombes de peinture qui sont connectées via des petits capteurs capacitifs. Donc quand on va toucher les bombes de peinture, on va lancer des sons. Et là aussi, un sélecteur permet de voyager dans les sons qui ont été utilisés par les différentes générations. Donc les kicks ou les caisses claires qu'on utilisait dans les années 90 ne sont pas celles qu'on utilise aujourd'hui. Et donc, on peut voyager dans les époques à travers le son en jouant avec ces instruments. Voilà.
D'accord, merci Marc. Pour rappel, le vernissage aura lieu ce soir dès 19h au Centre culturel des Chiroux et l'expo sera ensuite accessible jusqu'au 10 mai. Place au cinéma maintenant, l'industrie du film est entachée de polémiques concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle, notamment dans The Brutalist ou Emilia Pérez, ce qui pourrait même contrarier leur campagne des Oscars. Hier soir, l'association des Amis de l'Université de Liège a invité Dick Tomasovich, professeur de cinéma à l'ULiège. S'il y a influence aujourd'hui grandement la façon de faire les films, plongeons avec lui dans les œuvres qui ont tenté d'anticiper l'arrivée des machines.
I don't know what you're talking about, Hal.
I know that you and Frank were planning to disconnect me, and I'm afraid that's something I cannot allow to happen.
Déjà en 1968, Stanley Kubrick imaginait une intelligence artificielle hors du contrôle humain dans son magistral 2001, l'Odyssée de l'espace. À sa suite, Terminator, Westworld ou Blade Runner ont construit à leur tour leur IA menaçant l'humanité. Des représentations qui, peut-être, ont façonné les véritables technologies d'aujourd'hui.
Il y a des choses qui se passent dans le monde, et puis le cinéma en fait des représentations. Ces représentations, elles cristallisent une série de fantasmes. Et donc, effectivement, des procès d'intelligence artificielle aujourd'hui sont aussi des choses où se rejouent des images qui ont été vues.
Le film Her a quant à lui anticipé de 10 ans le rapport ambigu et émotionnel que nous avons développé avec les machines. C'est l'histoire d'un homme terriblement seul qui finit par tomber amoureux de son chatbot, un ChatGPT avant l'heure.
Le film avait donné l'impression d'être une forme de fable autour de cette possibilité-là. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elle est vécue très concrètement. Énormément de gens aujourd'hui arrêtaient leur rendez-vous des psychothérapeutes parce qu'ils les remplaçaient par ChatGPT.
La frontière entre réel et fiction est donc toujours poreuse, et même l'IA se prend à se voir plus réelle qu'elle ne l'est quand Dick Tomasovich lui demande si le film Her lui paraît réaliste.
En somme, oui, les utilisateurs projettent souvent les émotions sur moi, mais cela reste un phénomène de perception humaine distinct de ce que l'IA vit ou éprouve réellement. Ça vient de dire qu'elle vit et qu'elle éprouve, en fait. Je finis sa réponse en me disant ça, je n'invente rien.
C'est ce soir la cérémonie des Césars en France. Plusieurs films coproduits par la Belgique sont nommés, notamment Emilia Pérez avec la société de production des Frères d'Ardennes et des chorégraphies du Bruxellois Damien Jallet. Mais aussi trois films d'animation, La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, Flo et Sauvage. Et à Liège, Anima, le festival international du film d'animation, fait son grand retour du 28 février au 9 mars 2025 avec une édition placée sous le signe de l'audace et du rêve. De nombreux films pour petits et pour grands seront projetés au Grignot. Nouvelle mobilisation pour Code Rouge. Le collectif écologiste passe à l'action dès aujourd'hui et jusqu'au 2 mars avec une cible, l'industrie agroalimentaire. Une action menée aux côtés de 150 agriculteurs qui demandent eux aussi un changement, une agriculture plus juste et humaine. Chloé Levin, porte-parole de Code Rouge.
Récemment, avec les manifs agricoles, on s'est dit qu'il y avait vraiment un lien à faire entre lutte écologiste et mouvement agricole, qui était un peu manqué jusqu'ici, avec un discours qui opposait vraiment ces deux mouvements sociaux, alors que nous, on pensait que on avait beaucoup de choses en commun, et du coup, l'enjeu de cette action, c'était vraiment de faire un geste vis-à-vis des agriculteuristes. L'enjeu, c'est vraiment de se situer à côté des agriculteurs, en reprenant leur mot d'ordre, et en insistant sur à quel point, en fait, c'est pas les agriculteurs eux-mêmes qui peuvent changer leurs pratiques agricoles vers des des choses plus soutenables. Ça ne peut pas se faire tant que, par exemple, l'argent de la PAC, la politique agricole commune, n'est pas mieux réparti, ou qu'il n'y a pas des politiques publiques environnementales qui leur permettent réellement de changer leurs pratiques. Donc ça, c'est un aspect hyper important. Et ensuite, tant que les grandes entreprises qui payent les agriculteurs, par exemple, en leur achetant la nourriture, tant qu'elles ne poussent pas l'usage des pratiques soutenables, évidemment, il n'y a rien qui va changer.
Une page de l'automobile en Belgique se tourne. L'usine Audi ferme définitivement ses portes avec environ 3000 pertes d'emplois, sans compter les centaines de sous-traitants. Le site forestois ferme ses portes après à peine 3 ans après avoir été présenté comme une usine modèle. Il était assuré qu'elle maintienne ses activités jusqu'en 2030. Le jugement est tombé à Liège dans l'affaire des extracteurs de cocaïne. Le principal dirigeant du groupe écope de 15 ans de prison et ses complices entre 2 et 12 années d'enfermement. Ce grand groupe de dealers internationaux circulait dans toute l'Europe, de port en port, pour la mafia calabraise. Et c'est à Eupen, en province de Liège, qu'a été arrêté hier Antonio Ferrara, braqueur multirécidiviste. Le roi de la belle français a été arrêté par les forces de l'ordre belges hier matin. 11 autres suspects, dont son frère, ont également été interpellés sur le sol belge, a précisé le parquet de Bruxelles hier. Antonio Ferrara préparait un nouveau braquage en Allemagne. Aux États-Unis, Jeff Bezos serre la vis du Washington Post, Laura.
En effet, le milliardaire et propriétaire du journal veut limiter le champ d'action des pages d'opinion. Désormais, seules les tribunes en faveur des libertés personnelles et des marchés libres seront acceptées. Les avis contraires ne seront plus publiés. C'est une décision qui a provoqué le départ du responsable des pages opinion du quotidien.
Ce n'est pourtant pas la première fois que Bezos s'en mêle.
Oui, en effet, avant l'élection présidentielle de novembre, Jeff Bezos avait notamment empêché le Washington Post d'appeler à voter pour Kamala Harris, alors que les recommandations de vote par les comités de rédaction sont une tradition aux États-Unis.
Une prise de position forte, mais clairement assumée, proche du président américain, Laura.
Oui, début janvier, un dessinateur a démissionné après que le journal ait décidé d'interdire une caricature représentant Bezos avec un gros sac d'argent devant une statue de Donald Trump. La Maison-Blanche est actuellement en pleine offensive contre l'agence Associated Press, qui faisait partie du cercle assez restreint de journalistes qui sont admis au plus près du président américain. L'exécutif américain reproche à cette institution de la presse de ne pas se conformer à la nouvelle appellation du Golfe du Mexique, rebaptisée désormais Golfe d'Amérique par Donald Trump.
Merci Laura. COP 16 à Rome, les pays participants adoptent de justesse un plan pour financer la sauvegarde de la nature. Au troisième et dernier jour des prolongations, les pays riches et le monde en développement ont fait des compromis mutuels pour adopter un plan de travail sur 5 ans. Objectif, débloquer les milliards nécessaires pour stopper la destruction de la nature et mieux distribuer l'argent aux pays en développement. La Slovaquie porte plainte contre la Belgique dans l'affaire Chovanec. Pour rappel, en 2018, Joseph Chovanec, ressortissant slovaque, décédé à la suite d'une violente interpellation à l'aéroport de Charleroi. En septembre dernier, la Chambre du Conseil avait décidé d'un non-lieu. L'État slovaque estime que les procédures n'ont pas été respectées et porte plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Place au sport, la Pro League va faire peau neuve pour la saison 2026-2027. Le championnat belge passe officiellement à 18 équipes et le système des play-offs disparaît totalement. Un changement qui laisse un ressenti mitigé au sein des dirigeants de clubs wallons. Et enfin en tennis, David Goffin n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales du tournoi de tennis d'Acapulco. Le Belge s'est incliné en 3-7 face à l'Américain Brian Nakashima. C'est maintenant la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis toute cette semaine. Rendez-vous lundi, même heure, sur 48FM.